Bonsoir à tous. À la une ce soir, un lundi de Pâques de campagne à 6 jours du second tour de la présidentielle. Pas de pause pour les militants des deux camps. Nous serons à Nice avec ceux d'Emmanuel Macron et avec Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, qui n'assume plus sa position d'interdiction du port du voile. Elle était ce matin dans le Calvados. Parmi les débats présidentiels du jour, fallait-il supprimer le corps diplomatique français? Explication à suivre. La diplomatie impuissante pour l'instant en Ukraine. Deux prisonniers britanniques font la une ce soir. Détenus par la Russie, ils demandent à être échangés avec un proche de Vladimir Poutine. Retenu, lui, en Ukraine, il faut dire que les relations entre la Russie et le Royaume-Uni sont glaciales. Nous serons à Londres et en Ukraine avec nos envoyés spéciaux aux côtés de volontaires qui ont pris les armes. Dans l'actualité également, un département français sans aucune maternité ouverte. Situation inédite dans la Nièvre. Des restaurateurs qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre à 2 mois et demi des vacances d'été. Reportage dans la Creuse. Et puis une BD qui plonge dans les milieux complotistes, une fiction, mais qui s'appuie sur un véritable travail d'enquête. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, tous en thérapie, Jérôme. C'est la série d'Arte qui nous a donné envie de nous pencher sur votre relation au psy. Les crises sociétales successives, écologiques, diplomatiques, politiques, nous disent combien notre vie psychique est chahutée. Et qui peut répondre à ça sinon le psy? Beaucoup de verrous ont déjà sauté. Racontez-nous, vous, comment vous avez sauté le pas, si vous ne pouvez pas le faire, ce qui vous freine, au contraire, ce qui vous a relâché, tout ça au 01 45 24 7000.
France Inter. Un jour férié entre les deux tours d'une élection présidentielle, ce lundi de Pâques était peut-être pour vous l'occasion d'évoquer le duel Le Pen-Macron en famille ou de vous abstenir pour ne pas gâcher l'ambiance. Férié donc, mais pas chômé pour les deux candidats à pied d'œuvre. Nous serons avec Marine Le Pen dans le Calvados dans un instant. Arrêtons-nous d'abord sur les militants des deux camps qui ont mis ce lundi à profit pour aller à la rencontre des électeurs. Exemple sur ce marché de Nice ce matin. Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour dans la ville, mais ses partisans doivent encore convaincre avant dimanche. Reportage Julien Raymond.
Bonjour monsieur, pour Emmanuel Macron.
Devant les étals parsemés de fruits et légumes de saison, Julien, militant de la première heure, tente d'attirer l'attention.
Alors je vous fais une interro écrite sur le programme d'Emmanuel Macron.
Qu'il n'a pas fait pendant 5 ans, il va le refaire maintenant.
Alain, un Niçois, a glissé un bulletin, Philippe Poutou, dans l'urne au premier tour.
Vous avez fait votre choix pour le second tour monsieur?
Ouais, bien sûr, c'est fait.
Vous avez
fait.
Voté pour qui?
Ah bah je suis démocrate.
Vous avez voté Emmanuel Macron?
Bah ouais, je suis bien obligé.
Pour Alain, barrage républicain contre Marine Le Pen. Mais Julien doit convaincre beaucoup d'indécis, notamment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Nombre d'entre eux ne souhaitent pas donner leur voix au président sortant.
Le choix qui est posé dimanche prochain, c'est entre deux visions radicalement opposées de la France. Une qui, à mon avis, est particulièrement dangereuse pour la France, pour l'Europe.
Parmi les compagnons de Julien, Hugo, lycéen de terminale.
Montrer qu'il a pris le tournant de l'écologie, pas aller encore plus loin sur la rénovation des logements, sur le changement profondeur des industries, et ça on le fera pendant ce quinquennat.
Et côté pouvoir d'achat,
toutes les primes d'activité qu'il veut mettre pour les salariés, pour les indépendants, jusqu'à 6 000 euros dès cet été, bah indexer les retraites sur l'inflation qui monte aujourd'hui, qui sera de fait en 2023, mais il voudrait l'avancer, ça c'est très bénéfique.
Hugo espère maintenant qu'Emmanuel Macron réussira son débat d'entre deux tours. Ça viendrait récompenser tous nos efforts sur le terrain, conclut le jeune homme.
Julien Raymond, France Bleu Azur, sur ce marché de Nice. Pas de déplacement de terrain pour Emmanuel Macron aujourd'hui, mais deux interviews sur France Culture ce matin et France 5 ce soir. L'élection présidentielle ne vaut pas changement de régime, prévient-il en accusant sa rivale de se considérer comme, je cite, supérieure à la Constitution. Marine Le Pen précisément va marquer une pause dans les prochaines heures pour préparer le débat d'entre deux tours programmé mercredi soir. Avant cela, bain de foule ce matin dans le Calvados à Saint-Pierre-en-Auge et comme vendredi dans le Vaucluse, la candidate du Rassemblement National a été une nouvelle fois interpellée sur son projet d'interdire le port du voile dans l'espace public. Élodie Forêt, ce projet est d'ailleurs de plus en plus flou.
Oui, cela faisait partie des interrogations de la candidate depuis une semaine. Quelles inflexions apporter pour donner des gages, prouver qu'elle veut rassembler les Français? Adoucir la position sur le voile était l'une des pistes et c'est vendredi que la décision a été prise après le marché de Pertuis dans le Vaucluse quand une femme âgée portant le foulard l'interpelle. Le lendemain, Marine Le Pen amorce un changement de pied. « Je ne suis pas obtus », déclare-t-elle. Sommée de nouveau de se justifier justifié ce matin, la position ne semble pas encore très claire. Le port du voile sera-t-il interdit dans la rue sous une présidence Le Pen? Voici la réponse.
Alors non, je ne sais pas.
La candidate qui esquive en expliquant que ce sera à l'Assemblée d'examiner la question. Pour Marine Le Pen, à deux jours du débat, changer de pied sur le voile, c'est surtout se prémunir contre les attaques d'Emmanuel Macron en adoucissant ce qui restait l'un des totems identitaires de sa campagne, quitte à être accusé une nouvelle fois de se renier.
Marine Le Pen et le port du voile, une décennie de revirement, c'est à lire sur franceinter.fr. Sur la question des éoliennes aussi, le RN a semblé changer de position ces dernières heures. Démanteler est un grand mot, ne pas les renouveler, je dirais, expliqué ce matin sur Inter Louis Alliot pour le Rassemblement National, en écartant tout démontage. Correction de Marine Le Pen ce midi sur France Bleu. Si je suis élu, j'engagerai le chantier de démantèlement des éoliennes, dit la candidate Marine Le Pen, qui critique par ailleurs le choix d'Emmanuel Macron de bouger sur l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés après l'avoir refusé pendant son quinquennat. Il écoute les Français, mais il aurait pu écouter son cœur, selon elle. Fin de citation. Et puis il y a des sujets qui font irruption dans la campagne de manière plutôt inattendue. Je veux parler de la suppression du corps diplomatique français. C'est l'une des conséquences de la réforme de la haute fonction publique décidée par Emmanuel Macron président. Marine Le Pen dénonce le règne à venir, je cite, du copinage. Elle promet de rétablir le statut de diplomate. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Bertrand Galichet. Bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
La France n'aura plus de diplomate à l'avenir ?
Alors rassurez-vous, cette extinction programmée du corps diplomatique ne signifie pas la suppression des ambassadeurs. Les diplomates de haut niveau seront choisis parmi de hauts fonctionnaires issus de toutes les administrations, pas seulement du Quai d'Orsay, qu'il s'agisse par exemple de préfets ou d'inspecteurs des finances. Ils pourront aussi venir du secteur privé, d'où les soupçons de copinage pointés par une partie de l'opposition. Mais cette réforme met fin, c'est vrai, à l'expertise irremplaçable des diplomates français, considérés à l'étranger comme les meilleurs du monde. Emmanuel Macron leur avait reproché en 2019 de freiner sa politique de rapprochement avec la Russie. Ce chambardement au Quai d'Orsay est vécu par des diplomates de haut rang comme une punition. Beaucoup y voient un déclassement de la diplomatie française. Certains trouvent le moment mal choisi en pleine guerre d'Ukraine pour fragiliser l'action extérieure de la France. Gérard Araud, ancien ambassadeur à Washington, regrette que s'achève ainsi une histoire de plusieurs siècles. Et Michel Barnier, lui, dit que cette réforme est une erreur.
Explication signée Bertrand Galichet. À gauche, les discussions pour les législatives ont débuté aujourd'hui entre les insoumis et les communistes. Jean-Luc Mélenchon leur avait écrit en fin de semaine dernière. Valérie Pécresse, elle engrange les dons, elle qui doit rembourser sa campagne. Elle a recueilli moins de 5% des voix au premier tour. Sur les 7 millions d'euros à rembourser, elle a déjà reçu 1 400 000 euros après l'appel lancé au lendemain du premier tour.
Cela ressemble à une réponse de la Russie au soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine.
La télévision russe diffuse aujourd'hui une vidéo dans laquelle deux prisonniers présentés comme britanniques demandent à leur Premier ministre Boris Johnson de négocier leur libération. Boris Johnson, l'un des dirigeants occidentaux qui s'est le plus engagé dans le soutien à l'Ukraine. Explication d'Emeline Vin à Londres.
Des deux hommes, on ne voit que le haut du corps dans la vidéo. Sean Piner et Aidan Aslin s'adressent à Boris Johnson et lui demandent de les faire revenir au Royaume-Uni en échange de Viktor Medvedchuk, un opposant ukrainien fait prisonnier par Kiev. Aidan Aslin, 27 ans, était déjà apparu la semaine dernière à la télévision russe, menotté, portant des traces de coups. Installé depuis 2018 en Ukraine, il devait s'y marier quelques semaines après le début de la guerre. Sean Piner, lui, soutenait les forces ukrainiennes dans la région du Donbass depuis plusieurs années. Sa capture n'avait jusque-là pas été rendue publique. Le Royaume-Uni représente une cible de choix pour la propagande russe alors que Londres fournit armes et soutien diplomatique à Kiev. Ce lundi soir, les familles appellent Moscou à ne pas considérer Sean Piner et Aidan Aslin comme des mercenaires, mais comme des prisonniers de guerre et à les traiter humainement. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Ce matin, l'armée russe a bombardé la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, vive, jusqu'ici plutôt épargnée par la guerre. L'une de ces frappes a détruit une station-service selon le gouverneur régional. Au moins 7 personnes ont été tuées, toujours selon les autorités locales, les premières victimes civiles du conflit dans cette ville. Depuis la découverte il y a 2 semaines des massacres commis à Boutcha, près de Kiev, les Ukrainiens tentent d'identifier les soldats russes mis en cause. L'une des pistes mène à la 64e brigade de fusiliers motorisés. autorisée, accusée par l'Ukraine d'avoir participé aux exactions. Eh bien, cette brigade a reçu aujourd'hui un titre honorifique de la part du président russe Vladimir Poutine pour, je cite, son héroïsme et son courage. La résistance ukrainienne dans la région de Kiev, mais pas seulement, s'explique notamment par le rôle joué par les unités de défense territoriale. Ces volontaires qui ont pris les armes et tenu tête à des militaires aguerris. Depuis le retrait de l'armée russe de la banlieue de Kiev, ces unités se reconstituent et se préparent à de possibles nouvelles attaques. Reportage à Brovary, à l'est de la capitale ukrainienne, de nos envoyés spéciaux, Jérémy Tuil et Faustine Calmel.
Dans cette unité, la tension est un peu retombée depuis le recul des soldats russes il y a deux semaines. Ces 558 volontaires sous contrat profitent de l'accalmie pour investir un nouveau quartier général. Alex prend le temps de nous faire visiter cet entrepôt transformé en caserne.
Les tâches que nous devons accomplir en ce moment sont plus d'ordre logistique ou alors de l'entraînement. C'est notre manière de soutenir les gars qui sont au front et de nous organiser en tant que volontaires pour battre les Russes.
Devant l'entrée, un mur de sacs de sable a été érigé, l'armurerie est remplie.
Ce ne sont pas seulement leurs attaques au sol que nous craignons.
Cet homme, c'est le chef de l'unité qui souhaite rester anonyme.
Vous savez, ils nous ont déjà menacés d'attaques chimiques ou d'armes nucléaires tactiques. Hier, ils ont bombardé notre ville. La nuit dernière, c'était Kiev.
Depuis le début de l'offensive russe, une centaine de membres de cette unité ont rejoint le front. Tania, armée en bandoulière, est prête à se battre à nouveau.
Je ne peux pas dire si les Russes vont revenir ou pas. Mais leurs plans peuvent changer, c'est-à-dire qu'ils savent que tout le monde s'est un peu détendu. Ils peuvent refaire une offensive, mais on est prêts.
La jeune femme en treillis sourit. Il y a 3 mois à peine, elle était étudiante en management.
Faustine Calmel et Jérémy Tuil à Brovary pour Inter. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie va pénaliser la croissance mondiale. Voilà ce que dit la Banque mondiale aujourd'hui, qui abaisse sa prévision de 4,1% à 3,2% de croissance pour cette année. L'Europe et l'Asie centrale seront les régions les plus affectées, selon son président. En Chine, là, c'est l'épidémie de Covid qui n'en finit pas de gêner la bonne marche des affaires. Shanghai, sa capitale économique, strictement confinée depuis le début du mois, de quoi compromettre une croissance qui, au premier trimestre, est restée d'un bon niveau, plus 4,8%. La Chine ne s'en sort pas trop mal. Bonsoir Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine. Reste à voir maintenant, Sébastien, comment le pays va réussir à juguler le rebond de l'épidémie.
Oui, effectivement. En tout cas, une croissance à 4,8% dans un pays où des villes entières sont à l'arrêt. Cela confirme l'énorme capacité de l'économie chinoise à rebondir, même dans les pires situations. Sur les 3 premiers mois de l'année, le PIB a même progressé de presque 1 point par rapport au dernier trimestre 2021. La question est maintenant de savoir combien de temps la crise sanitaire va durer et quand la capitale économique Shanghai va retrouver une situation normale, car les confinements à répétition ont commencé à briser la chaîne d'approvisionnement. Faute de pièces détachées, certains sites industriels, notamment dans l'automobile, n'ont plus de quoi produire. La capacité d'exportation de l'usine du monde est réduite, notamment en direction de l'Europe. Et le plus inquiétant, c'est le marché intérieur chinois qui commence à être touché. Les Chinois, confinés dans leurs appartements, ne consomment plus. Les ventes de détail ont chuté au mois de mars de 3,5%, plus forte baisse depuis avril 2020. Difficile dans ces conditions pour le gouvernement chinois de respecter les prévisions de croissance pour 2022 fixées à 5,5%.
Sébastien Berriot en direct de Pékin. Combien l'épidémie de Covid a-t-elle fait de victimes dans le monde? L'OMS s'apprête à publier une étude qui provoque déjà la colère de l'Inde. Officiellement 520 000 décès dans le pays en raison de la pandémie. En fait, ce serait 4 millions de victimes selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 8 fois plus. 2 études déjà publiées par 2 revues scientifiques accusées les autorités indiennes de sous-évaluer le bilan du Covid.
Depuis une semaine, un département français ne compte plus aucune maternité ouverte.
Situation encore jamais vue en France. Ce département, c'est la Nièvre. Depuis lundi dernier, sa seule maternité, celle de l'hôpital de Nevers, cette maternité est fermée, épuisée. Les 14 sages-femmes du service sont en arrêt maladie. La maternité est en sous-effectif chronique car elle n'arrive pas à recruter. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Cette situation va-t-elle durer?
A priori non. L'action concertée des 14 sages-femmes de l'hôpital a eu un impact. La réserve sanitaire a été activée et dès demain, 8 sages-femmes et 5 infirmières vont arriver en renfort. En plus des titulaires qui seront de retour à leur poste 13 sur 14. Mais pour un mois seulement, alerte l'une d'elles, avec l'été, la prise légitime des congés, le scénario de fermeture temporaire de la maternité pourrait se répéter. À Nevers, cela faisait des mois que l'alerte avait été lancée par le personnel. De 5 sages-femmes par jour, elles sont passées à 4 en janvier, 3 en mars et puis 2 début avril. Intenable pour elles sans mettre en jeu la sécurité des futures mères. Sentiment de mal faire son travail, de ne pas être disponible pour accompagner les femmes comme elles le souhaitent. Leur situation illustre celle de l'hôpital dans un contexte post-Covid. Ici et là, des services d'urgence ou de spécialité sont contraints de fermer provisoirement les week-ends, la nuit, faute de personnel. À Nevers, les postes n'ont pas été supprimés. Ce sont les recrues que la direction ne trouve plus. L'hémorragie s'explique par le départ en libéral de ces sages-femmes ou dans des postes de PMI. En 10 ans, le nombre de sages-femmes n'a cessé d'augmenter en France, mais elles sont de moins en moins nombreuses à l'hôpital, nous apprennent les chiffres du ministère de la Santé. 59% y travaillent contre 73% en 2012.
Sophie Becherel, pénurie de bras aussi dans la restauration, entre 200 000 et 300 000 offres d'emploi non pourvues, essentiellement dans la restauration, dit l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Illustration en Creuse. Alors, ça n'est pas le département français le plus touristique, mais là aussi, les professionnels ont du mal à recruter des saisonniers. Le département, Pôle emploi et le syndicat UMI multiplient les opérations pour attirer les demandeurs d'emploi. Reportage Marion Ferrer.
Sur le canton de Guéret, on a 20 postes à pourvoir. Cuisiniers, serveurs, valets, femmes de chambre.
Au total, près de 50 postes sont disponibles. Anaël, la gérante de l'Alzire et de la Guinguette à Jarnage, a renoncé à l'expérience et mise sur la formation. Ce qui lui a permis de recruter 2 saisonniers.
On a plus recherché un savoir-être et un état d'esprit, tout en sachant que si la personne était assez dégourdie et avait envie, elle pourrait se former à nos côtés pour la saison.
D'autres ont accordé un jour de repos supplémentaire ou augmenté les salaires. De quoi convaincre Frédéric, au chômage depuis 2 ans, de déposer son CV comme femme de chambre.
Alors, ils ont dit c'est entre 1006 et 1007. Avant, c'était la base du SMIC, 1200, je crois. Donc là, ils ont fait, comme on dit, un gros effort.
Malgré tout, certains peinent à séduire. Et Thierry Dalle, le gérant de la brasserie Le Moderne à Guéret, propose 3 CDI.
Même si pendant la saison, il y a une activité plus importante, les heures sont rémunérées, donc à un taux majoré. Il y a tout à y gagner. Si effectivement on est motivé, c'est un métier qui reste très intéressant. Il ne faut pas le dénigrer.
Et le restaurateur précise qu'il y a urgence. Sans une équipe au complet, il devra refuser des clients en salle cet été.
Marion Ferrer, France Bleu Creuse.
Et puis une idée de bande dessinée, Jérôme, pour terminer ce journal, une BD très politique.
Oui, cette saison, son titre « Ils sont partout » est un clin d'œil au complotisme, puisque c'est bien le sujet de cet ouvrage qui vient de paraître. Une plongée très documentée sur ces groupes anti-vax, survivalistes, négationnistes, voire antisémites, de plus en plus présents dans le débat public, Amélie Perrier.
A priori, rien de disposé. Rose, journaliste bobo parisienne dans un magazine féminin, a s'intéressé aux complotistes. Mais son frère, Adrien, la vingtaine, disparaît brusquement un jour. Depuis quelques temps, il n'allait plus à la fac et passait ses journées sur Internet à regarder des vidéos anti-système sur la Covid, notamment. Rose part à sa recherche et se retrouve dans une grande fête à Saint-Lubin-de-la-Haye, le vrai village de Dieudonné en Eure-et-Loire. Dieudonné, rebaptisé ici « Bienvenue ». Car les auteurs font le choix d'une fiction où les personnages publics sont parfaitement reconnaissables. D'ailleurs, ce sont de vrais entretiens avec Jean-Marie Le Pen ou encore le négationniste Robert Forisson qui sont ici intégrés à l'histoire. Des entretiens menés par l'une des auteurs, l'historienne Valérie Higounet. C'est une fiction, mais ultra documentée. Et si certaines théories paraissent complètement loufoques, comme celle des platistes qui pensent que la Terre est plate, aucune n'a été inventée. Et la plupart font froid dans le dos car l'on touche du doigt ici la menace terroriste que représentent certains de ces groupes, une menace bien réelle.
Ils sont partout, signés Higounet, Schwarzman, Navarro et Lara, édité par les Arènes BD. Et puis confirmation que la Kenyane Pérez Jepchirchir est bien la reine du marathon en ce moment. La championne olympique de Tokyo a remporté aujourd'hui l'un des grands marathons de la planète, celui de Boston, en 2h21, doublé kenyan puisque Evans Chebet, chez les hommes, s'est imposé en 2h06.
Ils vont plus vite que moi à vélo.
Oui,
et que beaucoup, moi aussi. Beaucoup plus vite que moi à vélo. Et j'ai une batterie, je tiens à le dire. Allez, merci.
Tricheuse.
Jérôme. À demain.